Dernier avertissement concernant l'espace public. L'espace public est un espace neutre, c'est-à-dire que toute manifestation d'existence singulière y représente une atteinte à l'intégrité d'autrui. Tout sera désormais mis en œuvre, mobilier urbain, décors adéquats, contrôle continu, pour rendre impossible... Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui se passe ?
On va carrément réunion,
ce n'est pas une émission de radio, c'est un pli, un espace d'apparition, c'est un iceberg, un exercice de perception, un transformateur, un accélérateur, une pièce dans un mouvement.
On est bien dans Vacarment Réunion. Cette semaine, on n'est que tous les deux avec Jimmy. Salut Jimmy.
Salut Gilles.
Alors on va parler, d'abord on va revenir sur les manifs lycéennes, donc celles qui ont eu lieu à Paris et puis celles qui ont eu lieu un peu partout en France, et puis on va s'attarder un peu plus sur celles qui ont eu lieu à Dijon. Ça va nous conduire à faire une petite boîte à outils sur comment se préparer dès maintenant au mouvement qui vient, au mouvement social qui vient bientôt là. Et dans une deuxième partie, on parlera plutôt de l'écologie à Dijon et de qu'est-ce que ça peut vouloir dire habiter dans un endroit. Et on verra que ça va pas forcément très bien ensemble. Là, on est en direct. C'est la première fois depuis qu'on tient ces émissions. Du coup, pour fêter ça, on commence directement par une petite musique. Alors c'était Bad Kids du groupe qui s'appelle The Black Lips, donc les lèvres noires. Et on a un peu les traductions des paroles de cette chanson. C'est un peu une mauvaise traduction, mais c'est quand même intéressant. Donc Bad Kids, ils ont traduit ça par sale gosse. Et du coup, la chanson dit « Sale gosse, tous mes amis sont des sales gosses, pas des gosses diplômés, vivant la vie dehors en dérapant, des gosses comme toi et moi. En classe, on est une minorité, on n'a pas de respect pour l'autorité et on ne joue pas bien avec les autres et on vole. » De toutes nos mères, ils vont essayer de nous donner des pilules. Oh, attendez, donnez-nous toutes les pilules. Va pleurer, maman, je dois aller au tribunal. Papa, je ne paierai pas la pension alimentaire. Eh bien, tu dois comprendre que nous faisons ça parce que nous sommes des sales gosses.
Ah, ça décoiffe, hein. Ouh. Puis il faut voir la vidéo internet qui a collé. Apparemment, le prolétariat anglais a quelques problèmes avec ses bobies.
Ah, du coup, voilà. Vous pouvez aller voir, c'est sur YouTube ou je sais pas quoi. Le groupe, c'est The Black Lips, Bad Kids. Donc c'était pour parler un petit peu des manifestations lycéennes qui ont lieu là, un peu surtout à Paris depuis un mois et demi, deux mois, non ? Un truc comme ça ?
Ouais, c'est ça, ouais, depuis mi-octobre à peu près.
Ouais. Du coup, dans Vacarment Réunion, on était un peu passé à côté puisque ça concernait presque uniquement Paris au départ et on n'avait pas très bien suivi l'actualité parisienne. Mais du coup, ce qui se passe depuis à peu près mi-octobre, c'est que suite à l'expulsion d'une lycéenne qui était originaire du Kosovo, c'est ça, ouais ?
Ouais, c'est ça.
Qui s'appelait Leonarda de son prénom, je ne me souviens plus de son nom de famille. Il y a pas mal de lycées qui ont décidé de bloquer leur établissement. Enfin, pas mal de lycéens qui ont décidé de bloquer leur établissement et qui ont organisé toute une série de manifestations dans Paris pour protester contre les expulsions des sans-papiers et surtout du coup des expulsions des lycéens, quoi. Voilà. Du coup, il y a eu des journées avec vraiment beaucoup de lycées bloqués dans Paris et aussi dans toute la banlieue qui va autour, avec des manifestations qui sont allées jusqu'à 12 000 lycéens dans Paris, quoi. Où apparemment il y avait quand même des ambiances qui étaient vraiment bien, quoi. Où il y a plusieurs choses qui ont été occupées à différents moments, des gares, voilà, et que ça a un peu donné du fil à retordre à la police parisienne, puisque les lycéens étaient un peu incontrôlables, puisqu'ils sont pas très bien encadrés par des syndicats ou d'autres structures un peu formelles, comme ça peut être un peu plus chez les étudiants ou dans certains corps de métier. Et du coup, voilà, c'était souvent des manifestations sauvages, etc., quoi. Avec pas mal de blocages de lycées qui ont parfois été dégagés par la police un peu violemment, puisque là, depuis les vacances, le mouvement s'est un peu affaibli à Paris. Et sûrement un peu à cause des vacances, des remontrances parentales pendant les vacances, etc. Et puis aussi, en fait, il y a eu pas mal de violences policières sur différents lycéens qui étaient en train de bloquer leur lycée et qui ont été dégagés vraiment violemment par les keufs.
Ouais, à Colombes en particulier, dans les Hauts-de-Seine, qui est une ville assez populaire, les évacuations de lycées ont été assez musclées, ouais, il me semble.
Donc voilà, donc là depuis les vacances, il y a un peu moins de lycéens dans les rues de Paris, même si il continue à y avoir un petit peu des manifs. Et ça a pris par contre dans d'autres villes. Et du coup, il y a eu des manifestations. Bah, nous, vite fait, en regardant vite fait dans l'actualité, on a vu à Rennes, à Nantes, et puis du coup là à Dijon, quoi, cette semaine, quoi. Et voilà, entre autres à Rennes, le Ouest France déplorait le fait qu'il y avait eu des vols dans des supermarchés en marge de la manifestation. Du coup, dans des magasins comme Zara ou Total, il y a des bandes de lycéens comme ça à 10-15 qui ont débarqué dans des supermarchés et qui ont volé un peu des trucs et qui sont repartis. Et les vigiles ne pouvaient rien faire du tout et ils ont déploré dans la presse le fait d'être peu nombreux face à 15 lycéens qui débarquent tout d'un coup, quoi. Du coup, il y avait des petits articles un peu paternaliste, qui faisait des petites remontrances aux lycéens.
Ouais. Les lycéens nous ramènent à l'émission d'il y a 15 jours sur les grands magasins. Hein. Ouais. Apparemment, eux, ils ont trouvé une manière de se rapporter aux grands magasins qui n'est pas des plus idiotes.
Ouais, qui était un peu efficace, quoi. Voilà, je sais pas, il y avait peut-être d'autres choses à Nantes. Je sais pas si tu... Nantes, t'as pas vu, toi ?
Ouais, à Nantes, oui, il y a eu des voitures de retournée sur le parcours d'une manifestation. Et ils n'ont pas bien compris ce qui s'est passé, en fait, cette flambée de colère. Alors, c'était le 9 novembre que ça a eu lieu. Et effectivement, ouais, il y a eu plusieurs interpellations et des voitures retournées le long du cortège lycéen. Comme toujours pour les manifestations lycéennes, les journaux trouvent ça complètement inexplicable. Et peut-être que c'est effectivement inexplicable.
Ouais, du coup, cette semaine à Dijon, il y a eu aussi une première manifestation des lycéens contre les expulsions. Du coup, c'était un appel groupé lycée-université, je crois. C'était un peu la FSE qui avait déposé la manif... Enfin, Sud, du coup, bon, maintenant. Sud d'étudiants qui avait déposé la manifestation et qui appelait, du coup, à se regrouper contre les expulsions de lycéens et d'étudiants sans papier. Et ça faisait suite au fait qu'il y avait une lycéenne de Dijon qui avait reçu une OQTF, du coup une obligation de quitter le territoire français. C'est le papier, une fois que quelqu'un qui n'a pas de papier reçoit une OQTF, il est obligé de quitter le territoire. La prochaine fois qu'il croise un flic, il va se faire dégager, quoi, sinon. Et du coup, il y a une lycéenne qui avait reçu ça. Du coup, paf, manif, c'était quand, mercredi ? Ouais, mercredi, non, pardon, c'était jeudi. Du coup, jeudi, manif lycéenne dans Dijon, il y avait une cinquantaine de personnes, je crois, peut-être un peu plus, je sais plus. Et du coup, le cortège a traversé un peu toute la ville et ils ont bloqué plusieurs fois les routes du tram pendant quelques minutes. Voilà, apparemment, il y avait une bonne ambiance. Voilà. Et il y a la prochaine qui est annoncée mercredi prochain à 14h, place de la Libération. Du coup, qui est appelé un mercredi après-midi pour que les lycéens et les étudiants, enfin surtout les lycéens, n'aient pas à gréver, enfin n'aient pas à sécher leurs cours pour pouvoir aller à la manif. Du coup, ils espèrent qu'il y ait plus de monde comme ça, j'imagine.
Mais apparemment, ça marche en tout cas, puisque l'obligation de quitter le territoire a été retirée, non ? C'est ça ?
Ah oui, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. La manif, c'était jeudi, et dès vendredi, il y a cette personne qui s'est fait retirer son OQTF. Du coup, comme quoi, des fois, il suffit en fait de juste prendre la rue une bonne fois avec tous ses copains, et hop, c'est fini. Et voilà. Et apparemment, il y a Simone Veil qui a essayé, enfin le lycée Simone Veil, où il y a eu une tentative de blocage aussi par ces lycéens, et qui a échoué à cause de la direction du lycée, et puis aussi d'une intervention policière. Donc voilà, donc je pense apparemment dans tous les lycées, on nous disait qu'il y avait une sacrée pression quand même sur les lycéens pour surtout pas rejoindre ce mouvement-là, etc. Je pense qu'il y a plusieurs directions d'établissement qui flippent un peu en ce moment de ça, quoi. Du coup, nous, on a trouvé un texte qui relatait un peu comment a commencé le dernier mouvement lycéen à Dijon, du coup en 2008, qui était contre la loi Châtel, là, ce truc d'autonomie des lycées, c'est ça ?
Ouais, c'est ça, ouais. Une loi qui visait, qui était quasiment comme la loi LRU pour les universités, et qui visait à donner une plus grande marge d'autonomie aux proviseurs de lycées, dans le recrutement, dans tout un tas de coûts et de frais de fonctionnement et de modes de fonctionnement liés propres à chaque lycée, quoi. Et ce qui donc du coup faisait craindre un accroissement des inégalités entre lycées, et puis surtout ce qui va très bien dans la logique générale de faire entrer tout un tas de choses sur le marché et le savoir y compris, et donc c'est-à-dire mettre les lycées en concurrence les uns par rapport aux autres, et surtout que le lycée soit considéré par le proviseur comme une entreprise et non pas comme un service public ouais. D'intérêt général, quoi.
Ouais. Du coup, on a trouvé ce récit dans une brochure qu'on a trouvée aux tanneries qui s'appelle « Le mouvement lycéen de l'hiver 2008 à Dijon ». Et c'est le tout début qui raconte le premier blocus qui était le blocus du lycée de Brochon. Du coup, on lit ça en espérant que ça donne des envies et de l'imagination.
Suite à la manifestation de mercredi et la décision de la reprise du mouvement, on a décidé un peu à l'arrache de bloquer vendredi. On arrive donc à 2 ce matin à 7h15 devant le lycée. On récupère quelques poubelles. On organise un atelier tag sur carton, lycée élite, lycée poubelle, on n'en veut pas, lycée bloqué, ou Darko si tu savais. 2 internes nous rejoignent, ainsi qu'un autre lycéen. Il est 7h40, on décide de fermer les portes, d'installer les banderoles, poubelles et autres. La personne de l'accueil sort et essaye de débloquer l'entrée. Puis la proviseure, la larme à l'œil, sans déconner, la rejoint et entreprend de nous empêcher de bloquer. Du coup, on met tout notre bordel sur le côté et on essaye de lui parler. Des lycéens commencent à arriver et observent la scène. Le blocus ne peut être matériel apparemment, alors on décide qu'il sera humain. Très vite, on est rejoint par celles et ceux qui étaient au courant. Les gens paraissent motivés, des slogans fusent, des tracts sont distribués, et très vite tout le monde connaît les raisons du blocus. On vient nous demander pourquoi on fait ça, les lycéens sont intéressés. Énormément de cris, de slogans et de djembé nous rejoignent. Bref, très bonne ambiance. La route du lycée est barrée. Vers 10h, certains professeurs viennent nous parler, nous encouragent. Bilan du matin, environ 30 personnes en cours, entre 0 et 8 lycéens par classe. L'impact dans le lycée a été énorme. On a le droit à d'excellents échos. On parle même de monter un collectif à Brochon. C'est vers 11h que l'on se demande quoi faire maintenant. Beaucoup ont froid, ont faim, certains rentrent chez eux ou vont petit à petit en cours. On organise une AG pour aboutir à la conclusion qu'il faut élargir le mouvement. On a déjà fait passer le message à Brochon, pourquoi pas aller voir les autres lycéens de Dijon. Plusieurs groupes partent donc pour le Castel. Là-bas, on parle à des gens, on galère, et au final, on fait une AG devant le lycée. Certains lycéens du Castel nous écoutent, d'autres s'en foutent. On parle de ce qui s'est passé à Brochon, de ce qui est en train de nous tomber dessus, des mouvements passés et futurs, et de la rue de ce soir. On décide alors de continuer jusqu'à Saint-Jean, en compagnie d'un petit groupe du Castel. À Saint-Jean, on attend la récréation, tente de parler à des groupes de personnes, peu paraissent motivés. Seulement 2 nous suivent jusqu'à Simone Veil. Arrivé là-bas, on tente de parler un peu de gens qu'il y a devant. On discute un petit moment avec des filles plutôt motivées, et voilà. Cette journée aura été une petite journée d'information et sûrement le début d'un grand mouvement avec une belle ambiance. Et ouais. Effectivement, ça aura été le début d'un grand mouvement parce que c'est le mouvement lycéen le plus fort qui est eu depuis longtemps à Dijon, où ils ont été jusqu'à 3000 lycéens une semaine plus tard à bloquer la gare de Dijon et à manifester toute la journée rue après rue, lycée après lycée.
En tout cas, apparemment, c'était des bons souvenirs, puisqu'ils ont fait une brochure pour le raconter et pour que les expériences se transmettent, quoi. Donc, voilà. En tout cas, c'était la troisième manif de la semaine, aujourd'hui, enfin cette semaine à Dijon, quoi, puisque mardi, on était à une manif de soutien aux migrants et aux demandeurs d'asile à Dijon. Une manif qui a été organisée au départ, qui devait venir s'opposer un peu aux OQTF qui sont en train de tomber massivement là en ce moment sur les demandeurs d'asile à Dijon. Et il a été rajouté à ça le fait que la mairie de Dijon voulait faire sauter un des droits d'asile pour les mineurs, quoi, sur Dijon, ne plus tenir compte de la minorité, quoi, pour faire valoir le droit d'asile. Et du coup, la manif, elle était un peu appelée en réponse à ça, quoi. Ah, du coup, il y avait, je sais pas, 200-300 personnes. On est allé de la place François Rude jusqu'à la place d'Arcy. Et voilà, il y avait plein de migrants et du coup, il y avait une assez bonne ambiance, quoi. C'était chouette. Et jeudi, c'était la manif lycéenne. Mercredi, il y avait également un rassemblement de parents d'élèves qui manifestaient contre la réforme des rythmes scolaires. Du coup, ça c'est pareil, c'est la première qu'il y a à Dijon, mais il y en a un peu partout en France. Des collectifs de parents d'élèves, des collectifs de profs qui sont en train de se mobiliser contre une réforme qui s'appelle la TAP, TAP, et qui vise à transformer les rythmes scolaires et entre autres qui va obliger les enfants en maternelle à aller à l'école le mercredi matin. Du coup, il y a plein de gens partout qui se mobilisent contre ça. Et à Auxerre, là, pas loin d'ici, il y avait, je sais pas, 200-300 personnes dans les rues d'Auxerre, dont il y avait une partie qui vivait dans les villages aux alentours d'Auxerre, qui, eux, sont les villages tests de cette réforme. Et du coup, qui venaient dire que vraiment, c'était pas possible, que les enfants étaient crevés, que c'était vraiment pourri, que ça marchait pas du tout, quoi, cette réforme. Et du coup, qui encourageait vraiment tout le monde à se mobiliser avant que cette réforme, elle s'étende sur le reste du pays, quoi. Du coup, on se disait, mais c'est quand même une sacrée semaine, quoi. Et plus largement, en fait, ça fait 15 jours, 3 semaines qu'il se passe quand même pas mal de choses.
Ouais, avec l'écotaxe qui soulève les paysans un peu partout, et surtout en Bretagne. On a quand même pas mal entendu parler ces derniers temps, là, la révolte des bonnets rouges, comme ils s'appellent, puisqu'ils ont eu la bonne idée de mettre un bonnet rouge pour se référer aux révoltes, aux jacqueries des paysans bretons du 17e. Bon, c'était un peu autre chose. Même si le point de départ était la fiscalité, ce qui brûlait à l'époque, c'était pas des bornes radars, mais des bornes de contrôle. Mais voilà, en tout cas, ils se réfèrent à ce mouvement-là. Et tout ça, effectivement, ça fait une période un peu crispée, quoi.
Ouais, je crois qu'en plus de tout ça, il y a même des manifestations de flics et des manifestations de préfets, quoi. Je crois en plus je sais pas, de tous ces autres mouvements lycéens, agriculteurs, etc., quoi. Du coup, ça nous conduisait un peu à trouver que la période était plutôt intéressante, quoi, et qu'il se passait pas mal de choses. Et on était étonnés de voir que les préfets étaient d'accord avec nous, en fait.
Ouais, les préfets sont d'accord avec nous.
Les préfets sont d'accord avec nous et disent qu'effectivement, il se passe bien quelque chose en ce moment, quoi. Et du coup, ils ont écrit au gouvernement. Enfin, ils se sont manifestés dans la presse, etc., quoi, pour dire que ce qu'ils captaient de la situation en ce moment dans leur préfecture, c'était qu'il y avait quand même une espèce d'animation sociale, quoi, qui était en train de prendre, quoi. Et entre autres, il y a le secrétaire général du ministère de l'Intérieur qui a déclaré: face à l'accumulation de mauvaises nouvelles, il règne un climat douloureux, un sentiment d'accablement qui empêche de se projeter dans un avenir meilleur. C'est sur ce terreau que prospèrent les ferments d'une éventuelle explosion sociale. Voilà, du coup, on est contents, nous, parce que ça fait quand même longtemps. Le dernier mouvement social, c'était quoi, le mouvement des retraites? Du coup, on est vraiment très, très heureux de savoir qu'il y a tout ça qui se prépare, là, doucement. Et on se disait que, du coup, il valait mieux se préparer dès maintenant. Du coup, on a décidé de consacrer la boîte à outils de cette semaine à comment se préparer au mouvement social qui vient, qui risque d'exploser, là.
Demain, peut-être.
Demain, peut-être.
Ou après-demain, parce que demain, ils annoncent pas très beau, je crois.
Ah, bon. Alors après-demain, peut-être. Alors, Dumi, comment se préparer au mouvement qui vient, à ton avis?
Je pense qu'il faut planter des patates dans les cours des facs et puis des lycées. Parce que, et puis aussi, adopter des moutons. Hein, sinon, comment on va manger des kebabs pendant les, prochains mouvements sociaux.
Ah, tu veux dire, si tout est bloqué dans la ville pour pouvoir se nourrir et occuper la fac sans avoir besoin de sortir.
Si la ville est bloquée, les kebabs, quoi. Et ça, c'est n'importe quel mouvement social a besoin d'un kebab.
C'est vrai. Moi, je me disais qu'il fallait dès maintenant que tout le monde prévienne ses parents qu'il n'aurait pas son année, puisqu'on sait que c'est un peu ce qui provoque une crise en fin d'année. Du coup, autant commencer à les préparer tout de suite à ça, quoi.
Ensuite, dans le doute, ce ne sera pas perdu.
Au pire. Ensuite, commencer à faire des stocks de pneus et de palettes pour préparer les blocages des différents endroits, etc. Quoi.
Ah, je me disais transformer aussi les bâtiments municipaux en carrières de pierre. Dès maintenant, bien entendu.
Des pavés, quoi, à portée.
Et
on se disait aussi qu'il fallait se voler quelques pulls à capuche ou des écharpes, etc., pour les manifestations. De toute façon, il fait froid, du coup, ce ne sera pas perdu, quoi. Mais du coup, pour pouvoir se masquer en manif. Et puis voilà, et puis commencer dès maintenant à repérer un peu tous les trucs complètement fous qu'on pourrait avoir envie de faire pendant un mouvement, quoi. Enfin, envie de faire tout court d'ailleurs, mais qui deviennent possibles tout d'un coup lorsque tout le pays se soulève, quoi. On sait que par exemple, pendant le CPE, il y avait une énorme banderole qui avait été accrochée du haut d'une grue. Alors voilà, il faut peut-être commencer dès à présent à repérer les grues accessibles. Bon, mais plus sérieusement, on se disait qu'il y allait peut-être avoir une suite de manifs du coup qui allait s'ouvrir et que du coup on pouvait quand même. Donner quelques points techniques sur comment on fait quand on est dans une manif, essayer de réduire un peu les risques de se faire attraper ou des choses comme ça, quoi. Du coup, je sais pas à quoi tu penses. Moi, je pensais déjà au fait de se masquer, par exemple, éventuellement, quoi, d'avoir de quoi se masquer au cas où il y a des photos qui soient prises, etc., quoi. On sait que ça peut toujours être bien d'avoir un foulard sur soi ou quelque chose comme ça, quoi. Qu'il y a des moments en manifestation où tout d'un coup on se sent plus très à l'aise et qu'on préférerait être masqué. Et éventuellement à avoir sur soi du citron, du Malox. Le Malox, c'est un produit qu'on peut trouver en pharmacie, qui à la base sert à réduire les maux de ventre. Donc un médicament contre les maux de ventre, c'est ça ?
Ouais. C'est ça, oui. Ouais.
Et quand on le mélange avec de l'eau, c'est une très bonne réponse pour calmer les irritations qui sont dues au gaz lacrymogène. Du coup, voilà, si vous partez en manif, vous pouvez toujours faire ça, quoi. Allez, essayez d'avoir du Malox dans une bouteille d'eau préparée dans un sac, au cas où tout le monde soit gazé. Ça fait vraiment du bien, et à la peau, et à la gorge, de se nettoyer un petit peu avec ça, quoi. Voilà. Est-ce qu'on pense à d'autres choses ? On peut éventuellement porter des gants, parce qu'il y a... Si jamais ça dégénère ou on ne sait pas trop quoi, il y a toujours des relevés d'empreintes qui sont faits un petit peu sur ce qui est trouvé à proximité de la manifestation.
Oui, faut prévoir.
Ouais. Et il y a de toute façon, quand on va en manifestation, un peu, c'est bien de réfléchir un peu avant à qu'est-ce qu'on emporte sur soi, quoi. Si on veut ne pas donner notre nom, par exemple, ne pas avoir ses papiers dans son sac, ne pas avoir de gros couteaux ou de trucs comme ça, parce que si on est arrêté, même avec plein de gens, ça risque d'être un peu la merde après en garde à vue, ou voilà, des petits trucs comme ça.
Oui, tout à fait. Après, pas oublier que la première barrière, elle tombe avec le nombre, hein, plus les gens sont nombreux, moins il y a de la police ne devient un danger, jusqu'au point où, comme en Tunisie ou au moment des révolutions arabes, les gens se faisaient tirer dessus, mais on n'a plus peur. De toute façon, maintenant on est réveillé, on est nombreux et donc on n'a plus peur. Alors du coup, craindre les arrestations, faut les anticiper, mais pas oublier qu'aussi on court toujours plus vite qu'un policier, qu'on est quand même plus malin et que voilà, quand on est nombreux, on est imbattable.
Ouais. Du coup, pour se préparer dès maintenant, on va écouter une chanson de Mise en Demeure, qui est un groupe québécois qui n'a pas arrêté de passer sur les ondes pendant tout le mouvement étudiant au Québec, qui n'était pas du tout connu avant le mouvement. Et puis, on a des copains québécois qui nous expliquaient que comme il n'y a pas d'héritage militant vraiment fort au Québec, il n'y a pas de chansons comme ça qui sont transmises de génération en génération, comme ça peut être en Italie ou... comme c'est un petit peu en France, mais pas trop non plus, du coup, les gens n'avaient rien à chanter en manif. Et du coup, ce groupe-là, qui s'appelle Mise en Demeure, qui faisait des chansons un peu toutes simples, faciles à chanter, ça a tout d'un coup cartonné, ils avaient leurs photos dans tous les journaux, etc., quoi. Et du coup, là, on écoute une de leurs chansons qui s'appelle « Matraque-moi ».
Matraque-moi, j'aime tellement ça. Matraque-moi, encore et encore. Matraque-moi, j'aime tellement ça. Mais matraque-moi, encore plus fort. Et j'ai mis le feu à l'institution bancaire. Et mon compte était dégelé. J'ai mis
mis le feu au supermarché
et j'ai tout mangé.
Oh, j'ai mis le feu au presbytère
et Dieu m'a pardonné. On matraque-moi, j'aime tellement ça. Matraque-moi encore et encore. Matraque-moi, j'aime tellement ça. Matraque-moi encore plus fort. J'ai mis le feu à l'institution scolaire
et j'ai tout passé.
J'ai mis le feu à la haute direction et
j'ai su où aller.
J'ai mis le feu au ministère de l'éducation et
j'ai eu la gratuité.
Matraque-moi, j'aime tellement ça. Matraque-moi encore et encore. Matraque-moi, j'aime tellement ça. Matraque-moi encore plus fort.
Ouais, j'ai mis le feu à Québec solidaire
et je les ai entendus brère.
J'ai mis le feu à la NEFAC
et Mao m'a salué.
Yo, cheers, man.
J'ai mis le feu au PCR. Et je dis ça dans une chanson, je pense qu'ils vont brûler ma maison. Et je dis ça dans une chanson, je pense qu'ils vont brûler ma maison. Et je dis ça dans ma maison, je pense qu'ils vont brûler ma chanson.
Matraque-moi, j'aime tellement ça. Matraque-moi encore et encore.
Et matraque-moi,
j'aime tellement ça.
Matraque-moi encore plus fort. J'ai mis le feu aux policiers et je n'avais plus froid. J'ai mis le feu aux policiers et je n'avais plus froid.
C'est qu'il est chaud.
J'ai mis le feu aux policiers et je n'avais plus froid.
Plus froid.
Oh, j'ai mis le feu aux policiers et je n'avais plus froid. Et matraque-moi,
j'aime tellement ça. Matraque-moi encore et encore. Matraque-moi, j'aime tellement ça.
Matraque-moi encore plus fort.
J'aime tellement ça.
Oh,
matraque-moi encore et encore.
Oh, matraque-moi.
Oh, j'aime ça. J'aime ça quand tu m'attraques.
Oh, c'est bon.
Oh, j'aime ça quand tu m'attraques.
Ça fait du bien.
Oh, j'aime ça.
Et voilà, c'était Matraque-moi de Mise en demeure. Vous êtes bien dans Vacarme en Réunion. Du coup, maintenant, on va parler un petit peu d'écologie et d'habitation. Enfin, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, habiter quelque part, et en quoi c'est compatible ou pas avec la notion d'écologie, quoi. Et puis surtout à Dijon, quoi, puisqu'on sait que Dijon se veut être la capitale de l'écologie et devenir exemplaire sur toutes les questions d'environnement. Du coup, on va commencer par lire un extrait d'une brochure qu'on a aussi trouvée aux tanneries, qui s'appelle « Notes sur l'écologisme d'État et le capitalisme vert », et qui était en fait une brochure écrite par le collectif contre la société nucléaire, qui a été écrite à l'occasion du Grenelle de l'environnement, et qui, du coup, essaye d'apporter un peu des critiques, quoi, cette notion d'écologisme d'État, quoi. Voilà. Et là, c'est une des parties qui s'appelle « La victoire de l'environnementalisme ».
Depuis la fin des années 70, si l'on considère qu'auparavant il lui est arrivé de participer d'une contestation plus générale de la société, l'écologie a soigneusement entretenu l'idée de sa neutralité politique, ni à droite ni à gauche. Obsédée par les seuls rapports de production, la lutte de classe traditionnelle n'a jamais suffisamment considéré les conséquences de la production elle-même et la dégradation du monde. En réaction, l'écologie a contribué à faire oublier les rapports d'exploitation et de domination. C'est uniquement parce qu'elle acceptait de séparer de plus en plus la destruction de la nature de la question sociale, sous quelque forme que ce soit, que l'écologie a fini par s'imposer dans toutes les têtes et tous les discours. Le Grenelle de l'environnement marque le couronnement de la diffusion de la pensée écologiste au sein du pouvoir, et le projet politique des Verts est l'un des grands gagnants des dernières élections. Travaillant à répandre la confusion à travers, notamment, la notion de respect de l'environnement, l'écologie a gagné son pari. Choisissant de pointer démagogiquement la question du cadre de vie, loin des constats les plus élémentaires sur des pollutions réelles, elle est parvenue à diffuser ses contre-vérités simplettes les plus commodes à distiller, contre-vérités qui épousent bien sûr si bien les exigences d'ordre public ou d'urbanisme anti-pauvre. N'importe quel hypercentre piéton de grande ville en témoigne. La pierre y ravalée, les bancs absents ou design est volontairement inconfortable, et les pauvres et autres errants en sont chassés à coups d'arrêtés anti-mendicités ou anti-alcool. L'environnementalisme a en effet restreint définitivement le champ de ses revendications au papier gras, aux taxes sur les murs, aux vélos et aux tramways en ville, au point de perdre de vue la critique, même la plus édulcorée, des pollutions les plus voyantes. Le plus gros mensonge étant de faire croire à une possible action individuelle sur des détails, et que cette action, si minuscule soit-elle, aurait une incidence sur la réalité des désastres industriels. Ce Grenelle consacre une vision hors sol du monde et de ses habitants, une écologie technocratique qui ne voit plus une rivière, mais un taux de nitrate, un seuil tolérable, des poissons morts, bref, un ensemble de paramètres, de chiffres, qui contribuent un peu plus à éloigner le réel, à l'enfermer dans des cases. On ne considère pas la totalité du monde vivant, mais des écosystèmes industrialisés dont on mesure et prétend maîtriser les intrants et les sortants.
Alors, moi je trouvais ce passage assez intéressant pour plusieurs raisons, quoi. D'abord parce qu'il fait une espèce de critique de l'écologie comme quelque chose qui recouvre un petit peu toute... Ouais, je sais pas, l'espèce de vieille vision marxiste de lutte des classes, mais en tout cas les inégalités, etc., quoi, et qui dépolitise un petit peu la question en disant que on est tous dans le même bateau, c'est pour tout le monde la même chose, faut que tout le monde s'y mette à son petit geste, qu'il n'y a pas de différence entre les grandes entreprises qui vont se mettre à l'écologie et chacun où on va fermer notre petit robinet, quoi. Et du coup, de montrer comment... la vision que porte l'écologie sur le monde, c'est ça classifie un petit peu les choses. Enfin, ça essaye de faire des lignes de fracture entre des gestes qui sont bons et des gestes qui sont mauvais. Et du coup, comment quelque chose qui est porté de cette manière-là, un peu morale, bah, c'est très facilement digérable en fait par l'État, quoi, et par le pouvoir, parce que du coup, c'est très facile de légiférer là-dessus, de transformer cette morale-là en des lois, en des normes, etc.
Ouais, c'est ça, ouais, l'écologie, c'est une technologie de gouvernement, en somme. C'est-à-dire ce qui oriente et modèle les conduites. Mmh. Et du coup, ça s'associe avec un sentiment de culpabilité de celui qui n'a pas la conduite adéquate, quoi, qui s'allie ou qui dort dans la rue ou qui peut aussi des fois vomir sur une place publique ou qui peut avoir chez lui brûlé de la ferraille pour la récupérer ou des choses comme ça, quoi.
Ouais, je peux te dire que il y a pas eu à un moment une puissance des mouvements écologistes, ou alors que même aujourd'hui il y a plein de gens qui se réclament écolo et qui se battent contre des choses, et puis c'est vraiment chouette ce qui est fait, quoi. Il s'agit plutôt d'essayer de comprendre comment en fait des revendications qui étaient un peu révolutionnaires un peu à la base, parce que dans les années 70 il y a eu quand même des gros trucs contre le nucléaire, contre plein de choses, quoi. Comment ça a réussi à être avalé par l'État au point où maintenant c'est la population qui refuse les écotaxes, ou du coup que ça vient d'en haut en fait les normes écologiques, quoi, et que du coup comment maintenant on a une police de l'environnement, on a une on a tout plein de normes comme ça et de choses qui se sont transformées en une série de techniques de gouvernement, quoi, pour nous gouverner. Du coup, ça, on trouvait que c'était un peu important de le dire parce que à Dijon, c'est assez présent. Il y a tout ce truc de Dijon, capitale de l'environnement, tout ça. Enfin, qui est un label en fait qui n'existe pas, quoi, mais qui est un truc dont que voudrait devenir la ville, quoi, ou quelque chose comme ça.
En tout cas, dont elle fait sa fierté, quoi, d'être une. Ouais, une ville propre, c'est-à-dire une ville en fait où rien déborde, et pas une ville propre au sens où il n'y a plus d'industrie, parce que ça, aucune ville va s'en vanter, mais...
Ouais, mais il y a ce truc de ville propre, enfin, dans un sens aussi métaphorique, mais il y a aussi même ce truc pur d'écologie et d'environnement, parce que sur le site de la ville de Dijon, par exemple, il y a plein de rubriques qui sont consacrées vraiment à des guides de comment moins polluer chez soi, plein de choses comme ça, quoi. Et tout ce qui est le tram ou les écoquartiers, c'est vraiment mis aussi dans cette dynamique-là de devenir une éco-ville, quoi, ou quelque chose comme ça, quoi.
Oui, c'est vrai, ouais.
Et du coup, il y avait une critique de ça qui est assez facile à faire, même au sein même du prisme de l'écologie, quoi, qui est de dire que, bon, en fait, la ville, elle se targue de tout ça, mais elle est un peu contradictoire avec elle-même, parce qu'on ne peut pas faire de l'écologie et continuer à essayer de s'étendre et essayer de croître toujours plus, et du coup construire des nouveaux... construire de nouveaux immeubles, des nouvelles zones industrielles, et à côté de ça, essayer de faire en sorte qu'il y ait plus de vélos, quoi, que bien sûr, c'était des trucs un peu paradoxaux, voilà, quoi. Et même au sein même des écoquartiers, il y avait des gens qui luttent vraiment pour essayer que la ville elle soit plus écolo, quoi. Qui disaient même qu'il y avait des absurdités au sein même de ces bâtiments-là, quoi. Qu'on n'avait pas le droit de faire un jardin dans les espaces verts qui étaient consacrés à l'écoquartier. que l'eau qui était récupérée des toits pour essayer d'être mise dans les jardins, bah, en fait, pour la récupérer, il y avait eu la construction de plein de trucs pour ravaler l'eau dans la terre, etc. Plutôt que de juste mettre une gouttière et récupérer l'eau comme ça dans des bidons. Mais parce que bah, ça, c'est moche. Et du coup, voilà.
Bah oui, c'est ça.
En fait, il y a des enjeux. En fait, on préfère toujours quand même. Enfin, il faut que l'écologie puisse être compatible en fait, avec le marketing et avec.
Mais la notion d'écologie, ça, malheureusement, c'est devenu un peu ça, quoi. Il y a une notion de propreté et de. C'est très dans l'apparence, quoi. Un tramway peut être consommer énormément d'électricité, mais bon, s'il ne fait pas de bruit et qu'il a un joli design rose pimpant, tout va bien, quoi.
Ouais.
Et les flux informatiques actuellement, ou les serveurs de stockage de Google, par exemple, qui consomment des sommes pharaoniques d'énergie, ont rien de non écologique, puisqu'on ne les voit pas, puisque derrière un ordinateur, mmh. c'est propre et on peut très bien se targuer d'avoir une ville écologique qui a des centres comme Valmy, où c'est des bureaux remplis de cadres qui sont sur des ordinateurs. C'est pas du tout contradictoire.
Mmh, mmh, mmh. Ouais, tout à fait. On va peut-être écouter une petite chanson. On va peut-être écouter Amoureux de Paname de Renaud pour essayer de...
Ah ouais, les vibes bienvenues.
de trancher un peu dans le vif avec toute cette ambiance écologique.
Écoutez-moi, vous les ringards écologistes du samedi soir. Cette chanson-là vaut pas un clou, mais je la chante rien que pour vous. Vous qui voulez du beau gazon, des belles pelouses, des petits moutons, des feuilles de vigne et des petites fleurs, faudrait remettre vos montres à l'heure. Moi, je suis amoureux de Paname, du béton et du macadam. Sous les pavés, ouais, c'est la plage. Mais le bitume, c'est mon paysage. Le bitume, c'est mon paysage. Écoutez-moi, vous les ringards, écologistes des boulevards. Vos beaux discours, y en a plein d'eau, y a du soleil dans les ruisseaux. La tour Montparnasse, elle est belle, et moi j'adore la tour Eiffel. Y a plein d'amour dans les ruelles et de poésie dans les gratte-ciels. Moi je suis amoureux de Paname, du béton et du macadam. Sous les pavés, ouais, c'est la plage. Mais le bitume, c'est mon paysage. Le bitume, c'est mon paysage. Écoutez-moi, vous les ringards, écologistes des grands soirs. La pollution n'est pas dans l'air, elle est sur vos visages blêmes. Moi j'aime encore les pissotières, j'aime encore l'odeur des poubelles. Je me parfume pas à l'oxygène, le gaz carbonique c'est mon hygiène. Moi je suis amoureux de Paname, du béton et du macadam. Sous les pavés, ouais, c'est la plage. Mais le bitume, c'est mon paysage. Le bitume, c'est mon paysage.
Renaud, amoureux de Paname sur Vacarme en Réunion. On parlait d'écologie et d'habitation, et du coup on critiquait un peu les normes écologiques, tout ça, le côté un peu légiférant et comment c'est devenu une technique de gouvernement à Dijon comme ailleurs. Et du coup il faudrait se demander un petit peu peut-être comment le mot écologie a été transformé, quoi, parce qu'à la base éco c'est l'habitat, la demeure, etc. Quoi. Et du coup l'écologie ce serait beaucoup plus, si on essaye de voir un petit peu comment
c'est né. C'est une science de l'habitat, quoi.
Ouais. d'essayer de comprendre en fait un peu comment on habite dans un endroit, comment on est en interaction avec ce qu'il y a autour de nous, etc. quoi. Et du coup, nous, ça nous intéressait plutôt de poser cette question-là de cette manière-là, quoi, d'essayer de comprendre qu'est-ce que ce serait une ville dans laquelle on a envie d'habiter ou un espace qu'on aurait envie d'habiter, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire habiter un lieu, quoi, plutôt que de se poser constamment la question de comment limiter son empreinte écologique sur un endroit, ou des trucs comme ça, quoi.
Et du coup, pour ça, en fait, Gilles va nous lire un texte de Ivan Illich, qu'il ne faut pas confondre avec son homologue russe, hein, qui l'a précédé, mais et donc Ivan Illich, c'est un sociologue américain qui actuellement est professeur au Mexique, comment ça peu importe, mais et qui donc s'est beaucoup intéressé à cette question de l'habitat et qui en dit des choses très assez riches, quoi. Et donc ce texte nous vient d'un discours devant le Royal Institute of British Architects, donc c'est-à-dire ça s'adresse à des gens qui pensent l'habitat et ça a été prononcé en 1984.
Ça s'appelle l'art d'habiter.
Et ça s'appelle l'art d'habiter, voilà.
La plupart des langues emploient le terme « vivre » dans le sens d'habiter. Poser la question « où vivez-vous » c'est demander en quel lieu votre existence façonne le monde. Dis-moi comment tu habites et je te dirai qui tu es. Habiter, c'est demeurer dans ses propres traces, laisser la vie quotidienne écrire les réseaux et les articulations de sa biographie dans le paysage. Jamais la demeure n'est achevée avant d'être occupée, contrairement au logement contemporain qui se délabre dès le jour même où il est prêt à être occupé. Pareillement, un quartier urbain n'est jamais terminé. Encore au XVIIIe siècle, les quartiers populaires défendaient leur art particulier d'habiter en s'ameutant contre les améliorations que les architectes s'efforçaient de leur imposer. L'art d'habiter a succombé devant les avenues royales qui ont éventré les îlots au nom de l'ordre, de la propreté, de la sécurité et du décorum. Il a succombé devant la police qui, au XIXe siècle, a donné des noms aux rues et des numéros aux maisons. Il a succombé devant les professionnels qui ont introduit les égouts et les réglementations. Il a été quasiment supprimé par l'économie du bien-être, qui a exalté le droit de chaque citoyen à son garage et à son récepteur de télévision. L'art d'habiter est une activité qui dépasse la portée de l'architecte. Non seulement parce que c'est un art populaire, non seulement parce qu'il progresse par vagues qui échappent au contrôle de l'architecte, non seulement parce que sa délicate complexité le situe hors de l'horizon des simples biologistes et analystes des systèmes, mais plus que tout parce qu'il n'existe pas deux communautés faisant leur habitat de la même façon. Habitude et habitat disent presque la même chose. L'art de vivre, dans son entièreté, c'est-à-dire l'art d'aimer et de rêver, de souffrir et de mourir, rend unique chaque style de vie. Les logés ont perdu énormément de leur pouvoir d'habiter. La nécessité dans laquelle ils se trouvent, de dormir sous un toit, a pris la forme d'un besoin défini culturellement. Pour eux, la liberté d'habiter n'a plus de sens. Ce qu'il leur faut, c'est le droit d'exiger un certain nombre de mètres carrés dans de l'espace construit. Ils apprécient ce droit et s'en prévalent. L'art de vivre leur est confisqué. Ils n'ont nul besoin de l'art d'habiter, mais seulement d'un appartement. Les logés vivent dans un monde qui a été fabriqué. Ils ne sont pas plus libres de se frayer un chemin sur l'autoroute que de percer des trous dans leurs murs. Ils traversent l'existence sans y inscrire de traces. Les marques qu'ils déposent sont considérées comme des accros, des signes d'usure. Ce qu'ils laissent derrière eux, ce sont des détritus qu'enlèveront d'ébène.
Ouais, beau texte.
Ouais.
Effectivement.
Ouais, c'est joli. Bah, du coup, surtout la fin du texte sur qu'est-ce que c'était qu'être un logé, ça nous est quand même assez pensé à ce qu'on avait vu, nous, en se baladant dans les quartiers un peu neufs de Dijon, quoi. Que ce soit à Juneau ou alors dans les quartiers qui... Enfin, les nouveaux immeubles qui viennent d'être construits au Grésy et qui ont pacifié complètement le quartier, qui était une espèce de réponse architecturale et urbanistique la vie qui est débordée un petit peu des crécilles, au problème dit de délinquance ou de choses comme ça, quoi. Et du coup, quand on se balade comme ça, quand on se balade là-bas, c'est vrai qu'on voit comment tout a été repensé de sorte à ce que les choses puissent plus trop déborder, quoi. Il y a un des exemples que moi je trouvais assez parlant de comment l'écologie, c'est aussi une technique de gouvernement, c'est on a l'impression que tous les endroits qui étaient avant abandonnés, comme par exemple on peut voir devant devant l'immeuble Boutarique ou devant l'immeuble Réaumur, bah il y a des espaces en fait qui sont complètement vides où les gens peuvent squatter, peuvent se poser pour je sais pas pique-niquer, boire un coup, être avec des copains, enfin voilà quoi, il y a un espace qui sert à rien en fait, qui de fait n'est pas valorisé quoi, c'est-à-dire que il y a aucune grille économique qui a apporté une valeur sur cet espace. Du coup de fait, il est laissé au libre usage de ceux qui habitent là. Et là, pour le coup, on peut voir ce que ça peut vouloir dire, habiter cet endroit, quoi, parce que du coup, c'est un espace qui n'a pas de fonction, et du coup, chacun va l'habiter comme il veut, soit en faisant des pique-niques, soit en promenant son chien, soit juste en jamais s'y arrêtant, ou alors en rodant. Et
en faisant des roues arrière en scooter.
En faisant des roues arrière en scooter, enfin voilà, quoi. Et ben, dans les nouveaux espaces qui sont créés, dans les immeubles qui sont créés juste à côté, qui sont un peu des trucs qui ressemblent à des écoquartiers, quoi, où on voit qu'il y a des panneaux solaires sur le toit, etc. Et qui sont ce qu'ils appellent résidentialisés, c'est-à-dire qu'il y a des grilles tout autour des immeubles que tu ne peux plus atteindre directement à la porte de l'immeuble, mais que d'abord, tu as un premier portail à l'extérieur. Et alors, tous les espaces avant qui étaient vides et que du coup, il s'agissait d'habiter, là, c'est devenu des espaces verts. Et du coup, il y a un mot qui s'est mis sur ces espaces-là. Du coup, ces espaces deviennent valorisés, quoi. C'est avoir des espaces verts autour de son.
Puis ils ont une fonction précise.
C'est-à-dire
mettre un peu de verdure.
Ouais, c'est ça. De faire un peu comme si on était un petit peu plus à la campagne, quoi.
C'est ça.
Un truc comme ça, quoi. Et du coup, ces espaces verts, bah, c'est bon, ça rapporte des points en plus pour l'immeuble, quoi. Ça y est, c'est valorisé, quoi. Mais du coup, de fait, bah, plus personne s'y balade, plus personne ne peut rien en faire. En fait, il s'agit plus de l'habiter, puisque c'est juste un objet qu'il faut contempler, quoi. Mmh. Voilà. Du coup, je trouvais que c'était un exemple assez parlant de ces endroits. On écoute Brigitte Fontaine, c'est ça?
Ça c'est
dit,
ça, ouais.
Jimmy.
Allez, ouais.
Alors, on écoute Brigitte Fontaine, ça s'appelle Le Brin d'herbe.
Je ne crois plus qu'en un petit brin d'herbe oublié sur la voie ferrée. Je ne crois plus qu'en un petit brin d'herbe ressuscité au milieu des pavés. Toi, tu l'arraches avec tes bulldozers, roi de l'or, esclave de l'or. Toi, tu l'enterres avec tes quatre hivers, fils de la mort et père de la mort. Moi, je te hais depuis le fond des âges, mais quand même dans mon désespoir. Je t'aimerais toujours bien davantage que toi tu n'aimes sous ton parasol noir. Je ne crois plus qu'en un petit brin d'herbe oublié.
Voilà, c'était Brigitte Fontaine, Le Brin d'herbe, et vous êtes bien dans Vacarme en Réunion. Bon, on arrive un petit peu...
T'es sûr?
Ah ouais, bah je crois.
Ah, okay.
Non mais on est la semaine A ou la semaine B, parce que l'autre semaine c'était Terrain Vague. Non ouais. C'est nous qui sommes là, c'est Vacarme en Réunion, c'est bien ça. Alors du coup on arrive un peu à la fin de l'émission. On va finir par lire un texte qui s'appelle Opposant aux vieilleries du futur, qui concerne pas directement l'écologie en fait, mais qui essaye d'apporter un petit peu une vision différente de... Non, c'est moi qui vais le lire. Jimmy, qui essaye d'apporter une vision un peu différente aussi de comment on pourrait se rapporter à tous les espaces qui pourraient être un jour bétonnés. C'est un texte qui a été écrit depuis la ZAD, c'est ça, ouais.
Ouais, c'est ça, ouais, par les opposants au futur aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Mais on dit toujours futur aéroport comme si c'était sûr qu'il allait se faire, hein, ce qui est bon, la position assez générale des journalistes. Mais en l'occurrence, eux, ils ont appelé ça plutôt l'aéroport qui ne se fera pas, et donc ce projet complètement désuet et déjà stupide et déjà abandonné, et c'est un texte qui s'appelle Opposant aux vieilleries du futur.
Nous ne chérissons pas unanimement ces landes hostiles. Ce que nous aimons en tout cas, c'est qu'elles le sont aussi à la valorisation universelle. Nous entendons qu'elles le restent. Ce n'est pas le projet d'aéroport qui est inutile. Il est très certainement, du point de vue moderne démocratique, éminemment utile, au contraire. Ce sont ces landes et ces marécages qui sont inutiles, et tant mieux. Il faut se battre pour les broussailles, les taillis, les bordures, les fourrés, les restes, les marges inextricables, tout ce qui échappe à l'aménagement, à l'encasernement du territoire et au jardin à la française, avec ou sans béton. Un futur en forme d'aéroport vaut bien un futur en forme de parc naturel. Seul ce qui ne sert à rien et ne pourra rien valoir requiert immédiatement qu'on se batte pour lui, et avec lui, car il est l'irrécupérable et nous rappelle à l'existence de l'irrécupérable. Comment rester irrécupérable parmi l'irrécupérable ? Le mauvais réflexe environnementaliste consisterait à vouloir conserver, préserver, sauvegarder un territoire, le veiller comme on veille les morts, quand il s'agit simplement de se battre et d'habiter. De partir de ce qui relie et jette des ponts insoupçonnés, de partir de ce qui nous parle, de la multiplicité des usages et jamais de l'environnement. On se bat pour une inlassable modification du futur, un inlassable bouleversement. Une fois extrait cet aéroport, petite tumeur impériale, le futur homogène et verrouillé que projettent tous les projets du monde, le futur présente une micro-fissure. Et c'est justement ce que nous voulons. Fissurer ce qu'il lisse et polisse et entrer par effraction. Voilà, c'est quand même un très beau texte. Du coup, bah, on va rendre le direct. C'est comme ça qu'on dit quand on est en direct.
On va rendre le direct, tout à fait.
On va finir, comme d'habitude, par une dédicace.
On va devenir indirect, donc, c'est ça ?
Je sais pas.
Bon, je vais tenter d'être indirect pour certains. Ne donnez pas de confiture à des cochons.
C'est comme les messages pendant la guerre, c'est ça ?
C'est ça.
Ok. Et du coup, on va finir par une petite dédicace pour ceux qui pourraient être au mitard de la maison d'arrêt de Dijon, et puis dans tous les cas, à tous ceux qui sont en tôle et qui, on espère... Enfin, on espère qu'ils nous écoutent. Non, on n'espère pas qu'ils nous écoutent. En tout cas, bah, s'ils nous écoutent, on pense à eux. Nous, dehors, on essaye de faire des trucs... On essaye de réfléchir à des trucs pour les aider un peu à mieux vivre ce qui leur arrive, quoi. Et puis voilà. Et du coup, bah, à minima... On vous envoie cette chanson qui est Dijon Capital de African Crew, qui est donc un groupe de Dijon, quoi. Voilà. Et puis
pop, ouais, je courage.
Nous on se retrouve dans 15 jours.
Et à donc.
Et la semaine prochaine, c'est Terrain Vague. Allez, ciao.
Ciao.
Capital est sur le beat, séance coupée, grave dangereux. Antidétonique, dédicace, fontaine rouge, carnage, grâce aux cartouches. Ça coupe des têtes, enculé, traite l'élève, fait des coups de maître, maîtrise tout le périmètre jusqu'au millimètre. Qu'ils essayent de me la mettre, appelle-moi le kamikaze. Qui sait manier la gâchette, j'enculé, tasse pour leur clito. C'est sale, hachette.
Dijon, capital, capitule, j'habite hall. Tu veux visiter, pose ton cul dans l'habitacle. J'y vais au tact, au pied, on se capte. Tu connais ici, on se caille, on calme, on se calme, on balance à bout ta tête. On se tape, on se constate que l'ambiance est chaude comme au stade. Que le poisson crade, que les conditions de vie se dégradent. J'ai grave l'attention représentée. Dijon capitale du rap, les autres villes reposent en paix.
Agression illégale, on prend le mic, ça fait mal. Viens faire un tour chez nous, de la honte chaude on t'étale. On s'embrouille nos visages, on finit en chacal. Si on tire à taille, ça sera pas au grenaille. C'est Dijon capitale, là-bas si on la taille. Viens faire un tour chez nous, de la honte chaude on t'étale. On s'embrouille nos visages, on finit en chacal. On finit en chacal, viens faire un tour chez nous.
On court après la réussite en espérant la rattraper. Les jaloux nous saoulent tellement qu'on n'est pas prêt d'écouter. Clash nous on pète des dents, on pète dessous sous l'oreiller. Ça vient de Dijon, pas Marseille, c'est pas toujours ensoleillé. Avalanche de punchline, t'as l'impression d'être hostile. Je vois que l'État nous manipule, comment ne pas être hostile. Trop hostile et aime mon flow, mais il fait pas de Diddy Pix. 2010 ça slap, plus ça bat, plus comme dans un film.
Il y paya dans mes textes, brûle le mic déjà pareil. Dijon, ville tendue, demande au peux-tu comment. Ça c'est pas obligé, tous ces gars mis à pied, mis à terre, mes acolytes de ta mère. Mon département de Hala ou dans les caves des lofts sont installés pour quelques divans. Saquent les putes debout, pas besoin de divan. J'suis le mec bon vivant qu'il ne faut pas verger.
Agression illégale, on prend le mic, ça fait mal. Viens faire un tour chez nous, de la honte chaude on t'étale. On s'embrouille nos visages, on finit en chacal. Si on tire à taille, ça sera pas au grenaille. C'est Dijon capital, là-bas si on la taille. Viens faire un tour chez nous. De la honte chaude on t'étale. On s'embrouille nos visages, on finit en chacal. On finit en chacal, viens faire un tour chez nous.
vas-y paye ton pète. Mec on fait gaffe à tes gestes, toute ta tête peut taper direct sur la poubelle. Pique nos sur ma vie, c'est la fête. Trop de tocards, trop de traits, trop d'MC qui se la pètent et qui vont mourir bêtement. Honnêtement, rapuché devant direct, filoché par les inspects qui entraînent nos suspects secrètement. Pour un rien ils nous arrêtent, un couteau ou une plaquette. Mec c'est Dijon Capital qui opère discrètement.
Pour la cité, Dijon Capital prend ta sécurité et non pas ta carte vitale. Un conseil faut éviter, nos rats à Renoir Vital. Bien mieux là on l'a découvert comme des sangs de l'animal. Pieds sur mur dans tes oreilles, là le murmure. Le rap comme seule armure, la ligue des radures. Viens voir ce qu'on vise, qu'on vise. Dijon Capital pour nos tris, nos vignes.
Attention illégale, on prend le mic, ça fait mal. Viens faire un tour chez nous, de là on joue, on t'étale. On s'embrouille nos visages, on finit en chacal. Si on tire à taille, ça sera pas au grenaille. C'est Dijon Capital, la Bastille, on la taille. Viens faire un tour chez nous, de là on joue, on t'étale. On s'embrouille nos visages, on finit en chacal. On finit en chacal, viens faire un tour chez nous. Agression illégale, on prend le mic, ça fait mal. Viens faire un tour chez nous, de là on joue, on t'étale. On s'embrouille nos visages, on finit en chacal. Si on tire à taille, ça sera pas au grenaille. C'est Dijon Capital, la Bastille, on la taille. Viens faire un tour chez nous, de là on joue, on t'étale. On s'embrouille nos visages, on finit en chacal. On finit en chacal, viens faire un tour chez nous.
Africa Crew, tous les quartiers, Genève, Fontainebleau, Brésil, Valence, Montpellier, Quetigny, Chevigny, tous les quartiers, Stalingrad.